Si, bonjour à vous tous. C'est un plaisir de chanter. Merci aux musiciens qui nous ont accompagnés dans la louange. Aujourd'hui, on continue dans notre livre des Lamentations. Donc, un livre attribué par tradition au prophète Jérémie, et nous lirons le chapitre 3. Donc, vous pourrez chercher ce chapitre que nous lirons ensemble. Plusieurs d'entre nous vivent des circonstances difficiles dans leur travail, mais aussi dans la maladie, et quelquefois plus chronique, comme on a entendu, ou dans le deuil. En ce moment, particulièrement, nos frères et sœurs sont touchés. Il nous est difficile de parler de bonheur dans toutes ces circonstances en général. C'est un mot qui n'existe plus de notre vocabulaire. Et en quoi pouvons-nous encore espérer? En quoi pouvons-nous croire? Est-ce que même il n'y a pas des doutes qui surgissent dans ces moments-là au sujet de Dieu, pensant qu'il a peut-être changé de visage? Lorsque nous sommes privés de quelqu'un ou quelque chose qui nous est cher, lorsque nous ne sentons pas la paix à l'intérieur de nous, et qu'on peut peut-être dire que le bonheur a disparu de notre vie, quelles sont les vérités essentielles? C'est ce que nous allons voir, que nous devons viser pour que notre âme retrouve l'espérance. Que devons-nous repasser dans nos cœurs? Justement, nous arrivons au point culminant du livre des Lamentations, chapitre 3, bien qu'on constate que rien ne va dans le bon sens, que la ruine est plus que collective et totale, que tout le peuple est en exil, on peut pourtant voir dans ce chapitre une profonde consolation pour un cœur qui ne connaît pas la paix, qui ne connaît plus le bonheur, une âme souffrante, une personne qui, devant l'accumulation des circonstances dramatiques, ne sait plus quoi penser de Dieu. Que faire dans le creux de notre existence? Quelles leçons tirer pour nous? Peut-être pensons-nous qu'il faut oublier la douleur? Je pense pas. Peut-être pensons-nous qu'il faut la banaliser? Je pense pas non plus. Plutôt constater la douleur et se joindre à la prière d'espérance qui se trouve au cœur de toutes les larmes. C'est le thème de ce matin. Nous pouvons prendre le chapitre 3. Je vous fais la lecture. Chapitre 3, Lamentation, chapitre 3. « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os, il a bâti autour de moi, il m'a environné du poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas, il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer l'accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu mettre fin à ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête, je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde, quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Au début du chapitre, à la différence du reste du livre, ce n'est plus une voix féminine que nous entendons, c'est une voix masculine, celle du prophète qui souffre pour et avec son peuple. Il constate les conséquences terribles de la ruine et en souffre. Il dit avoir été amené dans les ténèbres, verset 2, d'avoir été emprisonné, au verset 7. Il dit qu'il a vu sa prière rejetée par Dieu, au verset 8. Qu'il se sent comme une proie face à un féroce prédateur, verset 10, qu'il est devenu le sujet de moquerie de son propre peuple, au verset 14. En bref, il n'a pas connu la paix de son âme, au verset 17. Il n'a pas connu le bonheur. Mais devant une désolation si violente, le prophète, il ne s'attarde pas à croire au hasard de tout ça, et encore moins à l'impuissance de son Dieu, comme si le mal lui aurait échappé. Il considère plutôt le Dieu souverain, qui est au-dessus de tout. Je vous lis les versets 37 à 39. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés ?» Parfois, j'ai tendance à réduire Dieu à quelqu'un qui veut seulement mon bien personnel. Mais lorsque viennent des angoisses ou des problématiques plus terribles, plus collectives, peut-être liées à l'état de notre pays, peut-être lié à l'état du monde, eh bien j'ai tendance que la puissance de Dieu n'y pourra jamais rien. Comme si elle s'arrêtait au pas de ma porte, à ma petite vie. Et j'aime bien ce qu'écrit le pasteur John Piper dans ce livre « Le mal fait-il partie du plan de Dieu ?» Je vous cite « Dorloté aujourd'hui, l'Occident finira par connaître tôt ou tard de grandes souffrances, et lorsqu'il en sera ainsi, quelle vision de notre Dieu tiendra ? Où sont les chrétiens ?» qui sont prêts à faire face aux tribulations annoncées. Les croyants occidentaux sont affaiblis par des conceptions du monde édulcorées et notre vie ne témoigne pas d'une conscience de la toute-puissance de Dieu. Nous nous attachons au mieux à son amour et à sa bonté, mais sa souveraineté, elle, est reléguée au second plan. Et je reconnais que j'ai facilement cette vision, moi-même, très égocentrique du règne de Dieu, qui fait qu'à la moindre circonstance qui ne va pas dans le sens de mon bonheur immédiat, ou de ce que mon intelligence peut comprendre ou expliquer, alors ma foi a tendance à s'éteindre, ou vaciller en tout cas. J'ai tendance à réduire Dieu à ce que je peux comprendre de lui, mais je ne cherche pas vraiment qui il est réellement et combien il est immense et souverain sur toute la création et sur toutes les circonstances de ma vie. Ces versets, ils peuvent nous questionner. Hein. Se peut-il que Dieu puisse ordonner le mal ? Lui qui pourtant n'est aucunement l'auteur du mal. Lui qui pourtant est bon de par sa nature. En fait, si nous pensons que Dieu ne peut pas envoyer le mal, et je dis bien envoyer, pas commettre, ça voudrait dire que le mal lui échappe. Et ça pose un gros problème théologique. Comment quelque chose peut échapper au Dieu souverain, au Dieu qui contrôle toute chose et en qui tout subsiste? Et vous avez probablement entendu cette question, pourquoi si Dieu est bon, il y a tant de mal dans le monde? La question elle-même sous-entend plusieurs raccourcis très problématiques. Premier problème, cette question elle sous-entend que Dieu serait coupable de faire le mal, en enlevant toute la responsabilité à l'homme du mal qui est fait. Le deuxième problème que je vois, c'est que on confond les commandements de Dieu, ce à quoi nous devons obéir, avec la volonté souveraine, ce qui va s'accomplir. En fait, Dieu, ce que Dieu veut, nous y désobéissons souvent, et ces désobéissances font quand même partie de son plan dans le sens décrétif, c'est-à-dire souverain. Ça ne lui échappe pas. Nos désobéissances ne lui échappent pas. Mais ce n'est jamais ce qu'il veut de nous. Par exemple, sa volonté préceptive, c'est que tout homme lui obéisse et fasse le bien. Mais tous ne le feront pas. Le fait que tous les hommes ne font pas forcément ce qui est bon est tout à fait inclus dans sa volonté souveraine. Il a permis cela et ça nous échappe, mais ça, c'est sûr et certain que ça va révéler quelque chose de lui un jour, et ça révèle déjà quelque chose de lui aujourd'hui. Et il y a un troisième problème, en fait, dans la question « Pourquoi si Dieu est bon, il y a tant de mal dans le monde ?» Il y a un troisième problème, il y en aurait d'autres, mais j'en cite un troisième. Je crois que ça occulte la réalité du diable, en fait. Étant donné que le diable est le prince de ce monde et qu'il cherche constamment à détruire les œuvres de Dieu, nous devrions comprendre que le monde pourrait être bien pire que ce qu'il est. Nous devrions plutôt nous poser la question, pourquoi, si le diable existe, est-il quand même possible de voir des moments de douceur, des gens s'aimer? Pourquoi ces exceptions sur la terre? C'est plutôt ça la question. Pourquoi des personnes se réunissent le dimanche matin pour écouter la parole de Dieu alors que ce n'est pas tendance dans ce monde? N'est-ce pas là une incohérence de voir une humanité déchue, régie par la pensée de ce monde, qui pourtant vit des exceptions d'espoir, de douceur, d'amour? Mais dans ce monde dont la pensée est gouvernée par Satan, la bonté et la grâce sont jamais des normes, sont des exceptions dont on goûte, qu'on peut goûter ensemble. Si nous savons que Dieu est bon par nature, mais nous savons qu'il peut aussi choisir d'affliger son peuple pour le corriger et le ramener à lui. Cette manière d'agir, je voudrais rassurer qu'elle est limitée dans le temps et qu'elle est toujours sous son contrôle, donc sous sa souveraineté, et qu'elle poursuit toujours un but plus précis, c'est de nous faire grandir dans la foi collectivement. Alors bien que je ne puisse pas savoir d'avance comment Dieu va me sanctifier par l'épreuve, je peux être certain que le mal par lequel il me fait passer ne change en rien sa nature et son plan glorieux. Parce que Dieu est souverain et qu'il nous fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein, alors les larmes que je peux vivre devraient me pousser à me questionner, à examiner si je suis sur une bonne ou une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie, je peux considérer sa patience et sa fidélité avec sérieux, en lui confessant mon péché, en revenant à lui. C'est ce que l'auteur écrit. Recherchons nos voies et sondons-les. Retournons à l'Éternel et levons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Mais si se lamenter, c'est juste pleurer sur notre sort et sur toutes nos souffrances, on serait malheureux. Si se lamenter consistait seulement à cela, on n'aurait aucun motif de se réunir et de célébrer Dieu. Mais heureusement, il poursuit cet objectif plus glorieux. Il veut nous faire comprendre qu'il est lui-même notre espérance. C'est grâce à cette foi en Dieu que le prophète y rebondit par un élan inattendu au centre du livre. Si vous voulez, au centre, le chapitre 3 étant le centre du livre, eh bien, au cœur de ce chapitre 3, il y a quelque chose d'inattendu. Le prophète rend toutes ses larmes fécondes, glorieuses, malgré le chaos des circonstances, alors que son âme, elle est abattue, dégoûtée, qu'il ne connaît plus ni la paix, ni le bonheur. C'est pourtant dans cette intensité douloureuse qu'il va repasser en son âme les vérités essentielles de sa foi pour persévérer, pour continuer d'espérer. Et quelles sont ces vérités? Qu'est-ce qu'il nous faut repasser dans notre cœur dans de telles circonstances chaotiques? Je vous lis verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. C'est un rappel pour le croyant découragé qui a tendance à vouloir tout anticiper avant d'avancer, remplaçant sa foi parfois par un calcul. Mais Dieu ne nous donne pas de connaître toutes les épreuves par lesquelles nous allons passer. Et le bonheur ne dépend même pas des circonstances, bonnes ou mauvaises, mais du Dieu vivant qui, dans l'épreuve et dans les circonstances, tient toujours notre vie entre ses mains. J'ai parfois tendance à oublier la fidélité de Dieu. Mais c'est un jour à la fois que le Seigneur me donne de vivre. Il n'est pas un matin où nous ne sommes pas au bénéfice de ses compassions. Elles ne sont pas à leur terme pour nous. Il n'est pas un matin où le Seigneur oublie aussi qui je suis et mes capacités limitées à endurer la tentation. Le Seigneur ne nous éprouvera pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et il donnera les moyens. On supporte la tentation. Paul nous le rappelle, l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 10, 13. Et le verset 22 ne nous dit pas non plus, dans Lamentation 3, quelles sont les bontés que le Seigneur va renouveler aujourd'hui. Nous ne savons pas. Mais il y a quand même un indice important. Elles sont en lien étroit avec sa fidélité. Et parfois, j'ai tendance à vouloir définir précisément les bénédictions et les bontés dont Dieu parle. Et si je ne les aperçois pas, je reste dans mon lit et je boude. C'est problématique. Et c'est tout sauf de la foi. C'est tout sauf de la foi. Ça s'appelle du chantage, en fait. Accomplis ceci, et je veux bien te suivre. Et en fait, ça prouve qu'on s'attend aux bénédictions de Dieu plus qu'à la relation qu'on a avec lui, plus qu'à le rencontrer lui. Mais la foi exige bien plus. La foi exige de s'abandonner à Dieu avec confiance en sa fidélité, de croire en lui sans voir de nos yeux le plein achèvement de tout ce que les circonstances nous amènent vers lesquelles elles nous amènent. On ne voit pas la fin du parcours, mais on a confiance en Dieu. Mais je voudrais parler qu'il y a aussi des saisons de vie très compliquées où notre être intérieur semble sec, semble tourmenté à l'extrême, sans que nous puissions l'expliquer. Nous pouvons ressentir au-dedans de nous, sans que nous sachions pourquoi, des états d'âme qui nous plombent, qui nous font ressentir une grande tristesse, sans forcément que ce soit directement lié à une désobéissance. Peut-être ça peut nous faire désespérer, ce qui nous donne le sentiment que nous ne connaissons plus le bonheur, là encore. Et dans ces saisons, je veux repasser dans mon cœur que Dieu lui-même est le sujet de ma joie. C'est lui mon partage, c'est-à-dire quand même je n'aurai plus rien, ni la santé, ni les proches qui me soutiennent, eh bien quand même je n'aurai plus rien, je sais que je lui appartiens, je sais que je suis à lui et qu'il est à moi. C'est mon partage, mon Dieu est mon partage. Je continue avec les versets 25 et 27. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Ici, c'est le rappel que Dieu est l'auteur de notre salut. C'est lui notre secours, il ne tarde pas dans ses interventions. C'est donc en silence que je m'attends à lui. Alors ici, il n'est pas question de se taire, mais plutôt d'avoir foi sans incriminer Dieu, sans murmurer. Avoir foi, c'est quand nous implorons Dieu, nous savons que Dieu va agir. Nous avons confiance en sa puissance, en sa souveraineté, en sa fidélité. Et je peux l'implorer pour qu'il me délivre, mais je l'implore sans avoir besoin de surjouer ma cause, sans avoir besoin de me faire passer pour plus victime que je ne le suis. De toute façon, Dieu voit tout, il sait tout. Et il pourra juger de ma souffrance avec plus de justesse que je ne le fais. Je sais, en fait, dans la foi, je sais que celui à qui je m'adresse, dans les larmes, n'est ni impuissant, ni sourd, que la détresse ne lui échappe pas, ma détresse ne lui échappe pas. Il a de la bonté envers ceux qui espèrent en lui. C'est donc avec patience que je m'attends à son secours dans l'épreuve. La patience étant une vertu qui consolide notre foi pour s'enraciner davantage en Dieu. C'est vrai, grâce à la patience, on peut renverser une vieille idée du monde qui voudrait que si notre jeunesse est derrière nous, nous avons loupé notre vie. C'est triste comme idée, et c'est faux. Au contraire, Dieu est lui-même la récompense de ceux qui portent son joug dans leur jeunesse et le cherchent de tout leur cœur. Celles et ceux qui, au lieu de s'adonner à leur propre profit, envie, aux résultats immédiats, pensant que demain ils mourront, préfèrent plutôt veiller et prier, sachant que demain ils vivront, ils verront Dieu dans toute sa gloire, car ils auront fait du royaume de Dieu leur priorité. Voilà le bonheur qui est réservé à tous ceux qui espèrent en Dieu. En vue de la gloire à venir, ils choisissent de demeurer fidèles au Dieu qui est fidèle. Même dans les larmes. Je continue avec le verset 31. « Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Ces versets sous-entendent que Dieu poursuit un but plus précis à travers l'affliction qu'il nous fait endurer, qui est temporaire. Et ce n'est pas donc à toujours qu'il nous affligera de la sorte. Ce n'est pas non plus avec plaisir qu'il le fait, mais c'est en poursuivant un but plus glorieux. Il utilise l'affliction pour nous dévoiler ses compassions et pour se faire connaître encore plus à nous. Et nous comprenons que si Dieu est riche en bonté et aime faire compassion, alors il peut nous éprouver pour que notre caractère soit davantage semblable au sien, de sorte qu'en goûtant à ses consolations dans l'épreuve, nous puissions nous aussi en consoler d'autres avec plus de profondeur et d'amour. Les épreuves nous permettent aussi de découvrir la multitude de ses bienfaits, parce que nous vivons des épreuves que nous cherchons la face de Dieu qui console. Jérémie dira « J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse » au verset 54. C'est aussi grâce à l'épreuve que je découvre des frères et sœurs dans l'Église, puisque c'est grâce à l'épreuve que je vois que je ne suis pas seul. Je peux être attentif aux épreuves des autres avec davantage de compassion, comme on l'a dit. C'est à travers bien des épreuves aussi que des personnes sont désespérées de leurs propres solutions et espèrent en Dieu qui est la solution, et se tournent vers lui, connaissent le privilège de devenir enfant de Dieu en regardant à Jésus-Christ. Et j'ai pas parlé, mais rapidement, il y a aussi des épreuves qui, en plus des épreuves qui nous permettent de nous tourner vers Dieu, il y a aussi des épreuves que nous pouvons vivre et qui surviennent parce que nous sommes déclarés chrétiens. Il y a des difficultés clairement liées à notre foi que nous pouvons découvrir lorsque nous voulons suivre Dieu. La foi chrétienne n'est pas sans épreuve dans un monde hostile à la bonne nouvelle. Mais c'est ce que l'auteur des Lamentations pouvait vivre, et c'était une image de l'immense plan de rédemption de Dieu finalement qui s'accomplit dans ce livre. Puisque l'Éternel allait en fait révéler des siècles plus tard son plan glorieux. Par la souffrance d'un homme innocent, l'humanité tout entière recevrait le privilège de reconnecter avec son Dieu, son Créateur, dans une relation restaurée et désormais harmonieuse. Jésus lui-même se présentera comme celui qui vient pour délivrer son peuple de la mort et du péché, comme on l'a chanté ce matin. Mais Jésus sera pourtant rejeté par son propre peuple, sera éprouvé, calomnié, ridiculisé. Il ne connaîtra pas le bonheur. Il a été injustement mis sur le banc des accusés. Mais en tant que fils de Dieu, c'est lui qui pouvait juger parfaitement le péché, notre péché. Mais il a préféré s'y associer, bien que sans péché. En s'associant à notre humanité, Jésus s'associe non seulement à nos souffrances, mais aussi à la culpabilité liée à notre péché, puisqu'il va jusqu'à souffrir d'une mort atroce en nous représentant sur la croix. Il nous remplace et meurt de la mort qui devait être la nôtre en s'offrant en sacrifice pour nous, par amour et pour payer notre dette. Cette coupe amère, comme un poison qu'il a bu jusqu'au bout, l'a séparé pour un temps de la relation avec le Père, l'a amené à vivre les réalités des ténèbres qu'aucun de nous n'a vécues, pour que par cette foi placée en lui, nous ne le vivions jamais. Jamais nous ne vivrons cet abandon. C'est Jésus qui a connu le silence du Père à sa prière. C'est lui qui l'a connu. Et c'est grâce à ce silence du Père que nous sommes écoutés par le Père, finalement, en Jésus-Christ. Puisque personne ne peut se lamenter comme Jésus sur la croix, il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien qu'on ait ce sentiment sur cette terre, ce n'est qu'un pâle reflet de ce que Jésus a vécu ultimement et définitivement. C'est par ce terrible épisode de la croix où la relation entre le Père et le Fils a été mise en suspension que nous avons le pouvoir aujourd'hui de devenir enfants de Dieu. Nous avons été adoptés par le Père, par la croix de Christ, grâce à son œuvre. Et c'est par la foi que nous approchons de lui. Alors quand tout nous semble noir, quand notre âme ne connaît plus le bonheur à cause du tourment, du deuil, de la maladie qui dure, nous avons besoin de nous rappeler que ses compassions et ses bontés ne sont pas épuisées, qu'elles continuent de se déverser à travers Christ. Quand nous savons que Christ est mort et ressuscité d'entre les morts, ça nous redonne d'espérer. Nous passons par son chemin, par un chemin de souffrance en étant croyant, mais celui qui a souffert une fois pour toutes est ressuscité d'entre les morts, c'est notre espérance en Christ. Lui dont l'autorité était discutée sur cette terre, lui dont le règne était moqué, lui dont la vie a été enlevée, lui dont les meurtrissures nous ont guéris, lui qui a accompli finalement notre salut. Et nous savons désormais que c'est lui-même qui essuiera toutes nos larmes. Dans le royaume du roi ressuscité, il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur, la mort n'est plus. Mais si nos souffrances nous laissent encore remplies d'interrogations ici-bas, dans nos quotidiens, je vous laisse avec un extrait de ce que John Piper écrit dans le même livre que j'ai cité tout à l'heure et qui m'a beaucoup touché. La mort de Christ était un meurtre, c'était le plus choquant des péchés jamais commis. Cependant, à un tournant décisif de l'histoire de l'humanité, ce pire crime jamais perpétré a finalement conduit au plus grand déploiement de la gloire de Christ et au triomphe de la grâce de Dieu sur le péché de l'homme. Mais à la croix, Dieu n'a pas seulement vaincu le mal. Il a fait en sorte que le mal serve à l'anéantissement du mal. Il a fait que par ce péché le plus abominable de tous les temps, le péché se donne lui-même la mort. Fin de l'histoire, en Christ. Parce qu'il n'y a plus aucun sujet de joie dans nos quotidiens, le chrétien, il a toujours quelque chose de plus que les autres, que personne ne peut lui enlever. C'est son reste, c'est l'Éternel lui-même. C'est son Dieu, c'est son partage. Si Christ est mort, il est ressuscité d'entre les morts, et aujourd'hui, il intercède pour nous, et nous console, et nous relève, et peut même rendre nos larmes du quotidien féconde. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort, c'est ce que l'apôtre Paul prêchait en 2 Corinthiens 7, 10. Alors si notre tristesse nous a amenés à demeurer un jour de plus proche de Christ, louons-le. Nous pouvons louer celui qui a souffert, ce n'est pas été vain. Que les compassions de notre Dieu soient sur vous et rendent toujours vos larmes aussi fécondes que celles de Jérémie et que celles de l'apôtre Paul et que celles et ceux qui souffrent actuellement dans notre assemblée. Que vos larmes soient fécondes, c'est ma prière. Je vous invite à vous incliner avec moi. Merci Seigneur de ce que nous ne comprenons pas tout et tu l'as voulu ainsi. Mais merci parce que devant toute chose, nous pouvons repasser dans notre cœur que ta fidélité est grande, que tes compassions ne sont pas à leur terme, que ta bonté est accessible encore aujourd'hui en Jésus-Christ devant notre responsabilité, nos échecs, nos manquements, nos manques de t'obéir, Seigneur. Tes compassions ne sont pas épuisées aujourd'hui encore. Tu l'as montré en Christ. Et Seigneur, je te demande que nous puissions discerner nos larmes, d'où elles viennent. Que si c'est de nos péchés, de nos manquements, nous puissions progresser avec toi pour que nous soyons transformés à ton image dans notre caractère. Et que si nos larmes, c'est les larmes des justes qui, en tant que chrétiens, sont moqués, alors tu nous aides à nous réjouir de toi, qui est notre partage, qui est notre consolation. Merci Seigneur, et c'est des fois le mélange des deux. Merci Seigneur de nous sanctifier, de nous pardonner nos péchés aujourd'hui encore, et de te louer parce que nous n'avons pas à vivre la croix, puisque tu l'as vécu. Nous te prions encore que si nous découvrons ce message, ou nous redécouvrons, ce soit vraiment l'occasion de te faire confiance, d'avancer vers toi. Tu es fidèle en tout point. Et tu veux pardonner le pécheur qui se repent, Seigneur, alors merci de tes compassions en Jésus-Christ. Amen.